VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 22 décembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En Côte d'Ivoire, la défense d'Hubert Houlaye dénonce un procès politique contre l'ex-ministre accusé de complicité de meurtre en 2012.
Au Burkina Faso, Doha promet de financer la construction d'un centre de radiothérapie du cancer à l'occasion de la visite de l'émir du Qatar.
À Addis Abeba, en Éthiopie, signature d'un nouveau cessez-le-feu entre les belligérants au Soudan du Sud, déchiré par la guerre civile depuis 4 ans.
Revers diplomatique pour les États-Unis hier à l'Assemblée générale de l'ONU, où une large majorité a condamné la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël.
En Espagne, les indépendantistes catalans ont conservé hier leur majorité absolue au Parlement régional.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, la défense de l'ex-ministre Hubert Houlaye, qui comparaît pour complicité d'assassinat de 7 soldats de l'ONU et de 8 civils en 2012, a estimé que toute l'accusation n'était qu'une pure fabrication de la DST, les services secrets ivoiriens. C'est ce qu'a soutenu au 3e jour du procès à Abidjan, maître Rodrigue Dadjé, réitérant qu'il s'agit d'un procès politique. Interrogé par l'avocat général, l'unique témoin présent sur les 5 cités, Serge Brou, militaire de 44 ans en détention préventive dans une autre affaire, a nié à la barre avoir incriminé M. Houlaye dans ses déclarations à la police.
En Mauritanie, 5 opposants ont été condamnés hier à 3 mois de prison avec sursis après avoir participé la semaine dernière à une marche pendant laquelle l'ancien drapeau national avait été brandi, a appris l'AFP de sources judiciaires. Une autre source judiciaire avait fait état dans un premier temps de 7 prévenus, 5 adultes placés en détention à la suite de cette marche et 2 mineurs sous contrôle judiciaire. Mais les 2 mineurs n'ont pas comparu, le ministère public ayant renoncé à les poursuivre, a précisé une source proche du parquet.
Le Qatar va financer la construction d'un centre de radiothérapie du cancer, première infrastructure du genre au Burkina Faso. C'est ce qu'ont annoncé les autorités lors de la visite à Ouagadougou de l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, arrivé hier à Ouagadougou. L'émir, qui effectue une tournée dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Côte d'Ivoire et Ghana, a aussi promis une coopération dans la lutte contre le narcotrafic et les groupes djihadistes.
Un nouveau cessez-le-feu a été signé au Soudan du Sud entre le gouvernement et les principaux groupes rebelles pour tenter de mettre un terme à la guerre civile qui ravage le pays depuis 4 ans. Claire Morin-Gibourg.
Le texte officiel du cessez-le-feu a été signé lors d'une cérémonie au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, après 4 jours de négociations. C'est à 00h01, le 24 décembre, que toutes les parties doivent cesser toute action militaire et opération hostile. L'accord prévoit entre autres que les belligérants gèlent immédiatement leur position, et ce pour garantir la protection des civils et l'accès de l'aide humanitaire. Le texte a été signé par le gouvernement du président Salva Kiir, par le principal mouvement d'opposition de l'ancien vice-président Riek Machar et par 6 autres groupes armés. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est voulu optimiste. « C'est un premier pas encourageant, vous redonnez une lueur d'espoir à votre peuple », a-t-il déclaré. Depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, les cessez-le-feu au Soudan du Sud n'ont jamais été respectés.
La France, très engagée dans la recherche d'une solution politique en Libye, a pressé hier les camps rivaux de s'entendre au plus vite pour organiser des élections au printemps, alors que le pays reste plongé dans le chaos. Ce calendrier est la solution politique indispensable à la Libye. Il faut maintenant le mettre en œuvre avec la plus grande célérité, a martelé le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, venu rencontrer les 2 principaux protagonistes de la crise à Tripoli et Benghazi, le premier ministre Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Revers diplomatique pour les États-Unis hier à l'Assemblée générale de l'ONU, une large majorité des pays a condamné la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais ce vote n'est pas contraignant, Abdourahman Dia.
Sur les 193 pays membres des Nations Unies, 128 ont voté en faveur d'une résolution non contraignante condamnant la décision annoncée le 6 décembre dernier par Donald Trump. Parmi eux, de nombreux alliés de Washington, dont Paris et une majorité de pays musulmans. 9 pays, dont les États-Unis, Israël, le Guatemala et le Togo, ont voté contre ce texte introduit par l'Égypte. 35 États, dont le Canada, le Mexique, l'Argentine, la Pologne ou la Hongrie, se sont abstenus et 21 n'ont pas pris part au scrutin. L'administration américaine a fait savoir qu'elle ne changerait pas d'avis. Les États-Unis se souviendront de cette journée qui les a vus cloués au pilori pour avoir exercé notre droit de pays souverain, a déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Nous nous en souviendrons quand on nous demandera encore une fois de verser la plus importante contribution financière à l'ONU, a-t-elle lancé, menaçant de mieux dépenser à l'avenir l'argent des Américains.
Au Conseil de sécurité de l'ONU, vote aujourd'hui d'un projet de résolution pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord. Présenté par les États-Unis, ce projet vise, entre autres, à interdire l'exportation vers la Corée du Nord de produits pétroliers raffinés. Des détails avec Eddie Isango.
Pyongyang pourra être privé des 90% des produits pétroliers raffinés importés, selon les textes. Et tous les Nord-Coréens travaillant à l'étranger devront retourner chez eux, rapatriés dans les 12 mois. La mesure concernera des dizaines de milliers de Nord-Coréens envoyés en Russie et en Chine afin de récupérer des devises pour leur pays. Ils travaillent, selon les textes, dans des conditions proches de l'esclavage. Les projets limitent par ailleurs les livraisons de brut à 4 millions de barils par an. Les pays souhaitant fournir la Corée du Nord en pétrole devraient demander la permission auprès de l'ONU. Les importations nord-coréennes de produits pétroliers raffinés, y compris les diesels et les kérosènes, seraient plafonnées à 500 000 barils l'an prochain. Et les pays fournisseurs seraient tenus d'informer l'ONU. La liste des produits nord-coréens interdits d'exportation s'allonge avec l'ajout des produits alimentaires, d'équipements industriels et électriques. En plus, 19 responsables nord-coréens travaillant dans les secteurs bancaires sont ajoutés sur la liste des sanctionnés, y compris les ministres des forces armées chargés de la logistique.
À Cuba, le président Raúl Castro cédera son fauteuil en avril 2018. C'est ce qu'a annoncé l'Assemblée nationale qui a reporté l'élection de son successeur, censé tourner la page de 6 décennies au pouvoir des frères Castro. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'élection par l'Assemblée nationale du Conseil d'État, lui-même chargé d'élire le président, a été fixée au 19 avril. Cette date est célébrée comme le jour de la mise en échec de l'invasion d'anticastristes soutenue par Washington en 1961. La prolongation du mandat de l'actuelle législature, qui devait prendre fin en février 2018, fait suite à l'ajournement des élections locales. Cette première étape des élections générales a été reportée après le passage en septembre de l'ouragan Irma qui a fait 10 morts et des dégâts évalués à plus de 13 milliards de dollars. Président du Conseil d'État depuis 2008, après un intérim de 2 ans, Raúl Castro, 86 ans, a affirmé qu'il céderait sa place à un dirigeant de la nouvelle génération. Son premier vice-président, Miguel Díaz-Canel, 57 ans, est pressenti pour lui succéder s'il est confirmé par le Parti communiste cubain en mars 2018. Raúl Castro restera toutefois à la tête du parti jusqu'au prochain congrès prévu pour 2021.
Les indépendantistes catalans ont conservé hier leur majorité absolue au Parlement régional, une situation qui replonge l'Espagne dans l'incertitude après la tentative d'indépendance sans lendemain qui avait inquiété l'Europe. Puigdemont, président, président, criait à Barcelone après l'annonce des résultats les partisans du dirigeant indépendantiste destitué qui se trouve toujours à Bruxelles.
À Astana, au Kazakhstan, 8e round des pourparlers sur le conflit en Syrie qui dure depuis 6 ans. On s'attend aujourd'hui à une déclaration finale qui pourrait porter sur le dialogue politique entre Damas et les rebelles, une semaine après l'échec de la réunion de Genève. Les pourparlers organisés à l'initiative de la Russie sont aussi parrainés par l'Iran, allié de Damas, et par la Turquie, soutien des rebelles.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho.
Au Congo-Brazzaville, le Fonds monétaire international, FMI, exige davantage d'efforts et de transparence de la part du pays avant de lui accorder un arrangement financier pour relancer son économie affectée par la baisse des prix du pétrole. La mission du FMI a ajouté craindre une contagion de la mauvaise santé économique du Congo à toute la zone CFA d'Afrique centrale en raison d'une dette insoutenable et de la faiblesse de la lutte contre la corruption. Au Sénégal, le gouvernement a annoncé la suspension de la taxe sur l'exportation de l'arachide afin de faire revenir les acheteurs chinois. Cette taxe à l'exportation s'élevait à 40 francs CFA par kilogramme pour l'arachide décortiqué et 15 francs CFA pour l'arachide en coque. Instituée en 2016 pour permettre une meilleure transformation des produits dérivés de l'arachide, elle avait causé le départ des marchands chinois et donné lieu à une incapacité des producteurs sénégalais à écouler leurs stocks. L'arachide mobilise plus de 60% des producteurs ruraux du pays. Au Burkina Faso, la taxe sur le tabac passe de 30 à 45%. Cette augmentation survient dans le cadre du nouveau code des impôts adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Sénégal, première nation africaine au classement FIFA.
Pas de bouleversement au sein du classement FIFA de ce mois de décembre. L'Allemagne, toujours suivie du Brésil et du Portugal, conserve la tête du classement mensuel de la Fédération internationale de football. Côté africain, le Sénégal, 23e, reste le pays le mieux placé du continent. Devant la Tunisie, 27e, l'Égypte, 31e, la RDC qui perd 3 places, 39e et le Maroc, 40e.
Inquiétude pour Cristiano Ronaldo avant le Classico demain.
L'attaquant portugais, victime d'un coup à un mollet le week-end dernier à la Coupe du Monde des clubs, n'a pas pris part à l'entraînement collectif du Real Madrid hier. On rappelle que le Real de Zinedine Zidane, actuel 4e de la Liga, 31 points, un match de moins, doit à tout prix l'emporter ce samedi face au FC Barcelone lors du Classico pour éviter d'être irrémédiablement distancé dans la course au titre.
Neymar, lui, évoque déjà la 8e de finale de la Ligue des Champions entre le Real et le PSG.
Ah oui, l'attaquant star de Paris a estimé que son équipe pouvait faire l'histoire en éliminant le Real Madrid, double tenant du titre. Déclaration de Neymar faite lors d'une conférence de presse hier en marge de la tournée du PSG au Qatar. Pour le PSG qui n'a jamais réussi à dépasser le stade des quarts de finale en C1 depuis l'arrivée des propriétaires qataris, éliminer le Real Madrid qui n'a plus chuté dans la compétition européenne depuis les demi-finales de l'édition 2014-2015, ce serait tout simplement un exploit.
Un nouveau Camerounais en Ligue 1.
Le défenseur Ambroise Oyongo, en fin de contrat avec l'Impact Montréal, s'apprête à rejoindre l'équipe de Montpellier. Le latéral gauche camerounais, âgé de 26 ans, a remporté la Coupe d'Afrique des Nations l'hiver dernier au Gabon avec les Lions Indomptables. Oyongo, passé par les clubs camerounais de Garoua et de Bamenda, s'était expatrié en 2014 en ralliant le club new-yorkais des Red Bulls de New York avant de rejoindre l'Impact de Montréal. Allez Idrissa, avec vous quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Chicago Bulls et Cleveland Cavaliers 112-115, Toronto Raptors et Philadelphia Sixers 114-109, Boston Celtics et New York Knicks 93-102.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau. Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, rendez-vous en direct dans Sporama 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple, vous pouvez nous appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. À très vite, sur le terrain de VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Faible engouement des Kinois dans les grands marchés de la capitale de la République démocratique du Congo à l'approche des fêtes de fin d'année. Vendeurs et clients se plaignent de la crise économique et sociale que traverse le pays et les commerces tournent au ralenti malgré les assurances des autorités. Constat de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Nous sommes au plus grand marché de Kinshasa, communément appelé Zando, situé au centre-ville de la capitale de la RDC. Ici, à cette période, il fut difficile de circuler librement dans les années précédentes suite au nombre impressionnant de personnes qui viennent s'approvisionner pour les fêtes de fin d'année. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. La circulation est fluide, boutiques et magasins très peu animés et les vendeurs se plaignent. Comment nous préparer alors qu'il n'y a pas d'argent? Les clients ne viennent pas. Regardez comment on est assis. On passe des journées entières sans vendre. Nous ne vendons pas. L'argent ne circule pas. Les magasins sont vides. Même les articles comme les habits qu'on vend bien généralement en cette période ne marchent pas. Nous vendons pourtant tout ici, les téléviseurs et tous les autres articles. Mais présentement, le marché est sevré des clients. Difficile d'attraper des clients suite à la conjoncture compliquée que traverse le pays. Les parents, censés offrir des cadeaux aux enfants en cette période, évoquent également la crise qui risque de gâcher la fête.
Il n'y a pas moyen, donc pour moi la fête, bon, c'est pas aujourd'hui la fête. Hein. Vu la conjoncture, bon, je vois les gens sur qui là. Bientôt, c'est la fête de Noël. Oui, il y a Noël, mais Noël, Noël à ventre famé.
Des deux côtés, on tente donc de trouver des explications. Si certains pensent que c'est la dépréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché de change qui est à la base de la surchauffe des prix observés sur le marché, d'autres par contre l'attribuent à la faible production des produits de consommation dans une RDC dont le marché vit essentiellement de l'importation ou encore au taux de chômage très élevé et à la modicité des salaires des fonctionnaires. Au micro de VOA Afrique, le ministre d'État en charge de l'économie reconnaît la difficulté que traverse le pays au plan économique. Et tout en promettant une amélioration future, Joseph Kapika rassure tout de même qu'il n'y aura ni rupture de stock, ni hausse de prix en ce qui concerne les produits alimentaires.
Nous avions eu toutes les assurances qu'il n'y aurait ni rupture de stock, ni hausse de prix. Nous avons la même assurance en ce qui concerne les produits alimentaires de manière générale, sauf la farine de maïs.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Pour les Togolais, la question est de savoir si les fêtes de fin d'année leur sont imposées. Face à une activité commerciale en berne, les commerçants se plaignent de la mésvente, pendant que certains habitants de Lomé, la capitale, disent ne pas avoir le cœur à la fête. Reportage de notre correspondante au Togo, Kai Lawson.
Nous sommes dans la plus grande zone commerciale de Lomé, précisément au marché d'Agbadahonoui, une place aménagée pour accueillir les commerçants suite à l'incendie du bâtiment principal du grand marché de Lomé en janvier 2013. Sur place, les visages se crispent, comme si c'était passé le mot.
Il est le manche.
En croire les commerçants interrogés.
Quand on vient au marché, on sent les choses. Il n'y a pas le marché, on n'arrive pas à vendre. C'est la fête qui vient comme ça, mais rien ne va du tout. Il y a des gens qui ne vont pas en Chine. Quand les gens vont en Chine et autres, là, ça va. Mais maintenant, tout le monde s'est caché. Tu vas prendre l'argent pour aller en Chine, payer des choses, venir s'installer dans la boutique. Il n'y a pas le marché, comment on va faire?
Les étrangers ne viennent pas, il n'y a pas l'argent, donc il n'y a pas de vente, rien ne marche. Depuis le matin qu'on est venu, on n'a rien vendu, mais nous vendons des habits des enfants. En ce temps-ci, les années passées, ça ne se passe pas comme ça. Les années passées, on disait qu'il n'y a pas l'argent, mais cette année-là, c'est pire.
Les activités ne marchent pas comme avant. On ne vend pas au marché, mais par la grâce de Dieu, ça va.
Franchement, commercial, ça ne va pas.
Ça ne va pas, rien ne marche. Les gens ne viennent pas, nous on sort, mais les gens ne viennent pas.
Pourtant, ces commerçants ont garni leurs étalages et boutiques attendant les clients quasiment absents. La crise politique que traverse le pays depuis 4 mois, on serait pour quelque chose.
À cause des manifestations, on ne vend pas, c'est trop. Donc il faut que le dialogue soit vite fait.
S'il y a marche, rien ne marche. Donc on sait que si la marche s'arrête aujourd'hui, on peut aussi vendre un peu et puis ça va aussi marcher pour nous aussi. En tant que citoyen, on se fait qu'il se comprenne plus, que les marches s'arrêtent et puis on avance.
Il faut que le président parle pour calmer le pays, quoi. Il n'a qu'à parler aux gens et puis on va voir comment l'activité va se passer. On est fatigué.
Il faut qu'il résolve ce problème. Il faut qu'il s'assoie pour discuter, pour que le pays avance. Il faut qu'il trouve des solutions.
Un tour en pile, le constat est tout autre. Lomé a fait sa toilette et ses boulevards et avenues sont parés de leurs plus beaux atouts pour annoncer des fêtes que certains Togolais n'attendent pas forcément.
Non, on ne sent pas la fête. La situation du pays est tellement que partout dans la ville, on ne sent pas d'engouement pour la fête. Moi, j'apprends même que le jour de la fête, même les gens vont marcher.
Pour le moment, on ne fait aucun programme. Avec les problèmes dans le pays, là. Vraiment, je n'ai aucun programme pour mes enfants.
Les fêtes de fin d'année se préparent. Mais cette année, nous avons des difficultés qui font que il est très difficile de préparer les fêtes puisque l'on n'a pas la tête à la fête. Donc, de mon côté, je prépare ça de manière morose. Tout ce que j'aurai à faire, c'est peut-être sortir avec les amis ce jour-là, juste pour ne pas rester à la maison, quoi. C'est un programme par défaut, quoi.
La fête dans notre famille, bon, on prépare ça très bien. Sinon, on rend grâce à Dieu. Les enfants, on a payé les tenues pour eux, vont bien s'habiller.
Il n'y a pas l'argent, donc on est là, juste à présent, rien. On va aller à l'église, c'est tout, comme d'habitude. On va préparer la pâte à demain. On mange bien, on boit de l'eau glacée, on ne sort pas.
Certaines boutiques ne se sont pas donné la peine de décorer leurs vitrines, comme si pour exprimer leur indifférence face à des fêtes caractérisées cette année par la mévente. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, la famine menace plus de 600 000 personnes. C'est le constat qui ressort du bilan de la campagne agricole 2017-2018. Il y a eu le problème des pluies capricieuses et des parasites, nous dit notre correspondant Zoumana Wonogo. Selon lui, les yeux sont donc tournés vers le gouvernement qui a prévu une batterie de mesures pour faire face à la situation.
Dépendant essentiellement de la pluviométrie, la saison agricole 2017-2018 a été marquée par des pluies précoces qui se sont arrêtées tout aussi précocement. Et si à cela il faut ajouter les attaques des chenilles légionnaires et des oiseaux granivores, les conséquences se sont vite fait sentir sur la production céréalière. Suivons avec le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo, le bilan chiffré de la campagne 2017-2018.
La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552 277 tonnes. Cette production est en baisse par rapport à la campagne agricole précédente. La production prévisionnelle rapportée aux besoins de consommation céréalière font ressortir un déficit brut estimé à 72 677 tonnes. 17 provinces déficitaires. Au regard de cette situation sur la période de soudure, 620 394 personnes seraient en insécurité alimentaire.
Au moins 90% des Burkinabés viennent du milieu rural. Alors, quand ça ne va pas dans ce milieu, les regards sont vite tournés vers les citadins. Une angoisse que partage ici Achille Sanou, employé dans une mine d'or.
Je suis plus basé en province même qu'à Ouaga et je vois que vraiment en province, c'est pas vraiment facile. Avec la pluie, cette année, ça n'a pas du tout été ça. Nous, les travailleurs en ville, quand la saison est bonne, on soutient les parents. N'en parlons pas que maintenant, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on va se débrouiller, mais Dieu est grand. Mais ça va nous chauffer un peu.
Boukari Ouédraogo est lui commerçant de son état et pour lui, il faut une réaction rapide au niveau gouvernemental.
Pendant la saison l'hivernage, bon, on a vu que la pluie était faible, effectivement, ce qui a créé est arrivé. Parce que pourquoi? Nos paysans ont des problèmes, puisqu'il n'y a pas de choses à mettre dans la gorge, parce que rien n'a reçu. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose, bon, on aurait essayé de faire, cette année c'est dur partout, donc il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on puisse sauver les paysans.
Justement, pour faire face à la situation, le gouvernement entend prendre une série de mesures. Voici les détails avec le ministre de l'Agriculture, Jacob Ouédraogo.
Cette année en particulier, il nous incombera d'accroître la résilience des ménages au stress alimentaire. Pour ce faire, le maintien et le renforcement des opérations de vente de vivres à prix subventionné dans les boutiques témoins de la SONAGES demeure prioritaire. Le plan de riposte à l'insécurité alimentaire, doté de plus de 700 millions de francs CFA pour l'année 2017, sera renouvelé afin de faire face au déficit actuel. Ce plan va consister à des opérations de distribution gratuite, de vente à prix subventionné de vivres, à la remise de cash et à l'octroi d'intrants agricoles aux ménages vulnérables.
Au Congo-Brazzaville, les populations autochtones ou pygmées ne sont pas souvent consultées lorsqu'il s'agit de développer les projets dans leur terroir. Ces populations se disent lésées et demandent que les autorités tiennent compte de leur libre consentement. De Brazzaville, reportage de notre correspondant Nguela Ngoussou.
Ces populations riveraines de forêt ne sont pas consultées par les pouvoirs publics ou les entreprises privées qui viennent exploiter le bois ou la mine dans leur terroir. Leur statut de population autochtone suffit pour que leur avis ne soit pas sollicité. Le pasteur Richard Bokodi de l'association Baaka de la Likwala dénonce le fait que leur forêt saquée ne soit pas respectée.
Mais tu sais que le problème de riz et le sel, est vraiment, ça ne nous concerne pas parce que les gens viennent seulement pour nous embrouiller, faire des choses, n'importe quoi, parce que nous, les autochtones, malgré que nous sommes discriminés par rapport à ça, on nous prend pas en considération. Vraiment, c'est pas normal. Si on nous consulte pas, vraiment, il y a des choses des ancêtres qui sont là-bas dans la forêt. Il faudra faire le travail au niveau de la forêt parce que nous sommes des spécialistes de la forêt.
La même plainte est ressentie par Guy Serge Ngoma, autochtone du Niari.
La personne ne peut plus être esclave sans l'accord, sans les consultations. Venir lui prendre au collet, non, quel que soit le problème, soit qu'à la justice. Donner d'abord la convocation. La convocation, c'est quoi? C'est les consultations, on vient te donner la convocation et puis tu te présentes si tu connais le problème ou pas.
Le coordonnateur du réseau national des populations autochtones du Congo, RENAPAC, Jean Ganga, estime que l'air, du sel et du savon comme seul langage pour accéder à leur forêt ou leur patrimoine culturel est désormais révolu.
Consulter, ce n'est pas leur amener du savon ou du sel et tout, non. Les consulter, c'est d'abord leur aller dire « voilà, nous voulons faire ceci, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Dans certaines régions du Congo, les choses bougent. Les acteurs de la société civile tels que Moïse Lantoum de la Sanga et Joseph Ngomandolo de la Likoumou le reconnaissent.
Il y a une évolution au niveau de la Sanga quand même. Nous avons des sociétés un peu plus responsables en dehors de la CEFID et ceux qui sont dans des zones non aménagées. Mais des sociétés comme IFO, CIB, il y a plus ou moins l'implication des communautés autochtones dans la prise de décision.
Oui, dans la Likoumou, aujourd'hui, il y a un grand effort que les gens font pour les associer à tous les règlements des problèmes. Aujourd'hui, personne ne peut décider en lieu et place des populations autochtones.
Les populations autochtones représentent 10% des 4 millions de Congolais de Brazzaville. Mais leur place dans le développement du pays tarde à être précisée. Elles sont souvent considérées comme des sous-hommes. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons de l'autodépistage du VIH-Sida.
L'autotest permet d'effectuer un dépistage par soi-même en prélevant son sang ou sa salive. C'est une méthode plus confidentielle et rapide.
Pour en parler, nous recevons le docteur Hugues Lago, coordonnateur des programmes VIH, tuberculose et hépatite pour le Bureau Afrique subsaharienne de l'OMS. Il nous expliquera les avantages et les limites de ce type de dépistage.
Nous écouterons également le docteur Joseph Larmarange de l'Institut français de recherche pour le développement et le docteur Vincent Bretin d'UNITAID. Ils nous parleront des projets d'autodépistage en cours en Afrique.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.